RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Salut les gars, Fred Veil, Stephen Brun, David Cosette, vous êtes en forme?
Salut mon petit Pierrot.
Il n'y a pas eu de week-end de Pâques pour vous?
Eh non.
Non.
Toi t'es allé à Monte Carlo, je sais.
Oui,
Steve.
Exact, vendredi.
Alors t'as vu tes idoles, jouer au tennis.
J'ai vu Fabio Fognini.
Une pauvre finale, moi, t'as pas de chance quand même. Fognini, Lajovic.
Vendredi.
Ah t'es allé vendredi?
Oui, j'ai vu 4 quarts de finale, magnifique. J'adore Fabio Fognini.
Alors qui va gagner Roland?
Je pense que c'est Rafael Nadal malgré tout.
Ah, malgré tout.
Oui.
T'as pris un petit coup de chaud quand même.
J'ai tardé.
Casquette rouge
écoute,
là.
Je regardais Medvedev Djokovic. Je sentais que ça tapait. Il y avait deux personnes devant moi qui avaient de la crème. J'hésitais. Et je leur ai demandé en français. C'était des Italiens. Ils ont compris quand même mon filet, mais c'était un peu trop tard.
Et quand tu connais le sport, tu te dis que c'est pas un hasard. Fognini qui gagne Monte Carlo l'année où Stephen y va. Je sais pas.
Qu'est-ce que tu vois comme signe, toi?
Que Stephen, c'est le Fognini du basket. Au contraire.
Ouais. Alors, est-ce qu'il a maîtrisé ses nerfs jusqu'à gagner un grand titre?
Ouais.
Non, toi?
Moi?
Oh. Mais avant 31 ans, quand même.
Ah, il a quand même été champion de France quelques
c'est
fois.
C'est pour ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne comparaison, le Fabio Fognini. Ça te va ou t'aurais préféré qu'on tape plus haut?
Nikaios. J'aime bien.
Ouais.
Des mecs stables émotionnellement.
On peut pas aller tout. Non, Benoît Paire.
Benoît Paire, j'adore.
Ouais, ben ça m'étonne pas.
Tu sais pourquoi? Parce que Benoît Paire, en dehors du terrain, est le mec le plus gentil du monde.
C'est un peu comme toi, quoi.
Sur le court, et ben, il se transforme.
Voilà. Fred, ça va? T'es en forme?
Oui, très bien.
Passé un bon week-end?
Oui.
T'es déjà stressé, je sais, pour 21h30 pour le quiz. Non, mais quand je te sens comme ça dans tes petits souliers, je me dis, le mec a pas révisé, il a pas bossé.
Non, j'ai pas bossé.
Zéro confiance en lui.
Zéro confiance en moi, effectivement, mais je suis un peu cramé aussi.
Ah, t'es un peu cramé.
Ouais, beaucoup d'allers-retours. Bon.
T'inquiète pas,
Pâques,
tout
là,
va bien se passer. On a un super programme dans Buzzer Time sur RMC et RMC Sport News jusqu'à 22h puisque Boris Diaw va prendre les commandes d'un club de Jeep Elite. Est-ce que ça vous fait kiffer? Voilà, c'est la seule question que j'ai envie de vous poser. Et puis surtout, on va essayer de se projeter. Qu'est-ce que ça peut amener à notre championnat spécial playoff? Là, c'est Open Bar. Chacun d'entre vous va choisir la série dont il a envie de parler. C'est dans quelques minutes l'actu du basket français dans le 1 contre 1 en ce moment. Stephen tutoie les étoiles, donc on va vous mettre ensemble les gars. Et puis plein d'infos sur le club de Limoges où décidément ça n'en finit plus de bouger en coulisses. Il y aura du direct avec Boulazac Limoges justement, 32-14 pour les visiteurs. Donc 18 points d'avance pour Limoges pour le moment. Et puis la Ligue 2 avec Paris FC Valenciennes, Jordan Olivier, 34e journée de Ligue 2.
Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement 34e journée entre le Paris FC Valenciennes, 17 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Une seule occasion pour le moment, une frappe de Nomen Djanari, le milieu de terrain parisien, qui est passé juste à côté du but de Perkis. Cette rencontre est importante pour les Parisiens qui sont actuellement 5e au classement. Importante pourquoi? Dans la course au play-off, notamment en cas de victoire, les Parisiens pourraient prendre provisoirement la 4e place au RC Lens. De leur côté, les Valenciennois ne sont pas encore maintenus. Il faut également grappiller des points pour les Nordistes. 18 minutes de jeu, donc 0-0 entre les deux équipes.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time.
Qu'est-ce qu'il va?
Les news Jeep Elite.
Je vous promets que pour les dernières émissions de la saison, Steve va faire les jingles en direct.
Parfait.
Parce que je te voyais là, imiter David Cosette.
Par cœur, ce jingle, il est magnifique.
Et bien sûr, pour les habitués, vous entendez la petite voix de Fred Weiss derrière qui est incroyable, beaucoup plus sobre dans son style. Alors, l'actu de la Jeep Elite, c'est l'arrivée de Boris Diaw. Juste avant ça, on a un superbe cadeau à vous offrir. Vous le savez, tous les lundis jusqu'au 24 juin, grâce à notre partenaire TCL, on vous fait gagner une télé. Attention, pas n'importe quelle télé. Une TCL entre Android Full HD 102 cm avec l'abonnement RMC Sport pour regarder bien sûr les matchs de Jeep Elite. Alors pour tenter votre chance, vous envoyez Buzzer au 732-16 BU2ZER. Bonne chance.
La Jeep Elite avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs.
Parce que toi tu l'aurais écrit avec un seul Z, Steve. Allez, Boris Diaw, 247 sélections en équipe de France, manager de l'équipe de France, président des Metropolitans 92. C'est le club de Levallois qui devient les Metropolitans 92 et qui sera basé à partir de la saison prochaine à Boulogne. Alors pour les gens qui sont pas très habitués avec la banlieue parisienne, Boulogne c'est juste à côté de Levallois, c'est la banlieue toute proche de Paris. On dit même de Boulogne que c'est le 21e arrondissement de Paris. Et donc ça va devenir les Metropolitans 92. 92, avec une future salle à l'horizon 2023 de 6000 places a priori. Président Boris Diaw, c'est déjà c'est un peu une surprise, non? Enfin, on s'attendait pas trop à cette tête d'affiche là, David.
Comme d'habitude avec Boris, il est là où on l'attend pas, il est déroutant. C'est vrai que ça a été une surprise pour tout le monde. C'est venu finalement d'une idée en l'air en disant pourquoi pas, et puis tout le monde s'est dit ce serait bien.
Je crois qu'il faut pas jouer avec Boris à ça. Pourquoi pas? C'est lui de prendre tout de suite au pied des lettres.
Voilà. Après, on sait que l'ère basket à Levallois, ça a toujours été une terre de basket, hein, Levallois, dans les années 90 déjà, les jeunes, les Cardiac Kids, etc. Il y a une culture basket qui est très forte. Mais là, politiquement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et en plus, à Boulogne-Billancourt, il y a, à défaut d'une grosse culture basket, un maire qui a joué au basket, qui est fan de basket depuis toujours et qui a envie de...
En tout cas, une culture sport à Boulogne-Billancourt.
Bien sûr, il y a beaucoup de
sport. La CBB, c'est un club qui parle au mini-sport.
Alors, est-ce que ça vous fait kiffer, tout simplement? Oui, j'ai pas envie de dire autre chose, parce que moi, je vous dis, aujourd'hui, Boris Diaw, c'est un profil totalement différent de Tony Parker. C'est un profil totalement différent des présidents, entre guillemets, classiques qu'on connaît en GP8. On sait pas ce qu'il va apporter à ce club.
Déjà, moi, sur Boris, je suis pas objectif, parce que Boris, par exemple, il ouvrirait une boulangerie, j'irais acheter des pains au chocolat chez lui. Quoi,
oui, mais si tu parles gastronomie, c'est sûr que tu peux faire confiance à Boris Diaw. Ça, c'est ça.
C'est kiffant. C'est du charisme. C'est peut-être
fantastique.
Top 3 des plus grands joueurs français de l'histoire. Et voilà, Boris, c'est toujours surprenant. Déjà, quand il est revenu jouer l'année dernière, c'était la surprise générale sous le maillot de Levallois. Là, c'est la surprise générale qui devient président. Ça sera un président totalement différent de Tony, je pense. Tous les deux ne sont pas les mêmes businessmen. Je suis pas sûr que Boris Diaw prenne la présidence de ce club.
Non, mais déjà, la grosse différence, c'est que Tony Parker achète le club.
Exactement.
Il met des sous dedans.
Il met des sous dedans.
A priori, pas le cas de Boris.
Je suis pas sûr que Boris se dépense beaucoup d'argent avec son statut de président. Il a déjà été président d'un club, c'est Bordeaux. Il a perdu beaucoup d'argent à Bordeaux. Je suis pas sûr qu'il ait envie de réitérer la chose, mais c'est bien pour le sport français. Et comme le dit Fred, c'est son credo, ça, les anciens qui ont des rôles dans les clubs. Non, c'est très bien. Et puis pour l'image d'un club, avoir Boris Diaw président, c'est parfait. Quand vous voyagez, quand ils sont amenés à faire des coupes d'Europe, que ce soit Boris Diaw votre président, c'est très très bien pour l'image de marque du basket français.
On a pris Boris Diaw pour représenter un peu la France aussi dans le staff de l'équipe de France. Donc on se dit que si son aura est suffisante pour l'équipe de France et enjolive encore l'équipe de France, on se dit que forcément, pour une équipe de Jeep Elite, ça va toucher un public qu'on n'avait pas l'habitude de toucher. Des gens que tout le monde connaît Boris Diaw. C'est quelqu'un qui peut permettre à Jeep Elite de progresser également.
Et on précise qu'il va garder son rôle de manager de l'équipe de France.
Oui,
hein.
oui.
Ce qui en soi peut paraître curieux d'ailleurs.
En accord avec Jean-Pierre Sutta qui a donné son
président de la Fédé.
Le président de la fédération, oui. Qui a donné son autorisation.
Après, quand on connaît la personnalité de Boris, on sait que c'est un homme libre, qui est attaché à sa liberté, qui a commencé un tour du monde extraordinaire, on le voit souvent sur ses stories Instagram, et qui n'a évidemment pas terminé. Et je pense qu'il n'aura pas la même implication au quotidien que Tony Parker, qui aura arrêté sa carrière NBA, où Tony, il est vraiment...
Je suis pas sûr qu'il soit dans le bureau, Palais des Sports, Massa Sardin, de Levallois, c'est jour sur 7. Hein,
en même temps, est-ce qu'il en a vraiment besoin?
Non, mais après,
de savoir que lui, il peut passer
au fil
pour faciliter les choses.
Oui, pour faciliter les choses. Dans un club de JP, les présidents, en général, ils sont quasiment 5 jours sur 7.
Il y a souvent des vice-présidents qui sont là, qui font un peu le travail de l'ombre. Et lui, il sera là pour... facilitateur, il représente.
Pour moi, c'est quasiment plus un prête-nom. Boris Diaw, on a mis Boris Diaw là. Je suis pas sûr qu'il ait d'énormes responsabilités, d'énormes décisions.
Ça c'est négatif de dire ça.
C'est exactement ce que je pensais. C'est un peu négatif, un prête-nom.
C'est le cas parce que Jean-Pierre Aubry ne peut plus tenir la présidence de ce club. Ils ont eu cette idée-là, elle est très bien, mais je suis pas sûr que Boris Diaw ait énormément.
Jean-Pierre Aubry, qui est aujourd'hui dirigeant à Levallois, précisons-le, et qui intègre ce club donc des Metropolitans 92.
Conseiller du président.
Voilà, mais hiérarchiquement en dessous de Boris Diaw, on est bien d'accord. Hein.
Oui, mais après, celui qui va être la cheville ouvrière au quotidien et le manager du club au quotidien, et c'est déjà le cas, c'est Alain Weiss, qui justement a une connexion avec Boris Diaw, puisqu'il a été son entraîneur en équipe de France au moment où Boris était tout jeune et faisait ses premiers pas en équipe de France.
Alors, ça tombe bien, si Alain Weiss bosse au quotidien à Boulogne, il pourra aller déjeuner régulièrement avec Stéphane Brun.
On ira au Cardinal avec Alain. Une petite bouffe. C'est moi qui paye l'addition, je pense.
Est-ce que ça change quelque chose globalement que les personnalités, et là je parle plus de leur rôle, mais des personnalités Tony Parker, Nicolas Batum, Boris Diaw, soient directement impliquées dans la Jeep Elite?
À quel niveau?
Tout niveau. C'est-à-dire en termes d'image, en termes de marketing, pour entre guillemets vendre le championnat, faire venir des joueurs,
ça peut populariser,
faire venir des investisseurs, ou est-ce que ça change pas grand chose?
Si, ça change au niveau de l'image, tu vas peut-être toucher un public qui a de l'amour pour l'équipe de France de basket l'été.
Est-ce que si Boris Dio appelle un joueur laiton qui est courtisé par un club grec, un club belge et un club finlandais pour lui dire viens au Metropolitans, concrètement, est-ce que ça change quelque chose?
Clairement, on voit déjà l'impact que peut avoir Tony Parker et Nicolas Batum, que ça soit dans le recrutement de la section masculine et la section féminine. Ils ont forcément un rapport de force différent par rapport aux autres présidents, et Boris Dio, ce sera la même chose, il pourra avoir un petit peu plus d'influence. Et après, Boris Dio plus la ville de Paris, je pense qu'il y a un paquet de garçons, un paquet de joueurs qui vont vouloir venir.
C'est pas la ville de Paris, attention.
Et on connaît la fascination de certains chefs d'entreprise qui ont réussi pour des sportifs. Et sur son nom, il peut aussi, comme Tony va le faire à Lyon, faire venir des nouvelles entreprises.
Des investisseurs. Ouais, ah, parce que tu dis Paris, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Paris Basketball? Parce que on a un projet qui se monte, qui est pour le coup, en termes d'image, qui veut être très associé à la ville de Paris, donc qui entend prober actuellement, Paris Basketball, qui est très ambitieux, mais qui pour l'instant part de zéro.
Il fallait un mix des deux.
Est-ce que les Metropolitans 92 à Boulogne avec Boris Dio, c'est pas finalement un concurrent entre guillemets de trop?
Moi, il y a toujours ce nom qui m'interpelle. Moi, j'ai du mal.
Le nom est pourri.
Pour moi, il est pourri. C'est pas une image. Metropolitans 92. Je veux dire, il y a un joueur ricain de Coupe d'Europe qui va jouer, je sais pas, en Slovénie, et qui va jouer les Metropolitans 92.
Tu lui dis, tu viens au Paris Basketball, c'est mieux.
Ben oui, Paris, parce qu'il y a le nom Paris. Qui fait aussi Jordi Bertemu, le patron de l'Euroleague. C'est le nom Paris, la marque Paris.
Tu lui dis, viens au Metz, il va partir à New York.
Non, mais Metz 92.
L'ironie de la situation, Pierre, c'est quand même dingue, c'est que pendant des décennies, on a espéré un club parisien stable qui représente la capitale au niveau européen. Alors il y a eu quelques réussites quand ils ont été champions en 97 avec une très belle génération. Mais ça a quand même été très très compliqué. Et là, parce qu'il faut pas oublier que Nanterre a gagné des coupes d'Europe, a joué en Euroleague, s'est construit une histoire très rapidement. Et puis il y a un vrai esprit de clocher avec des supporters. Là, il y a ce projet qui est intéressant, et il y a aussi le projet de David Kahn. C'est-à-dire qu'on va passer quasiment rien du tout à trois vrais trucs.
Après, Nanterre a une vraie identité qui gardera, je pense.
Oui, bien
sûr. Entre Paris Basketball et Metropolitans 92, je pense qu'il y a une vraie rivalité parce que il faut aussi se créer.
Il y a tout à
une histoire et des supporters.
Les deux clubs ont pas de public.
Pas de salle, pas de public. C'est le plus dur.
Il y a tout à créer. Ils partent de zéro.
En tout cas, Boris est de retour aux affaires en Jeep Elite et rien que pour ça, on est quand même assez heureux de cette info. Boulazac Limoges, plus 18 pour les Limougeaux, donc sur le parquet de Boulazac. La Ligue 2, 34e journée, Paris FC Valenciennes, Jordan Olivier.
Eh bien messieurs, pas grand chose à vous raconter dans cette première mi-temps. 28 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes, même si ce sont les Parisiens qui mettent le pied sur le ballon, mais ils ne se sont pas créé encore d'occasions assez franches, tout comme les Valenciennois qui pourtant sont la troisième équipe de Ligue 2 en termes d'attaque, troisième attaque de Ligue 2, mais qui sont venus avec une formation assez défensive dans la capitale et qui ont du mal en tout cas dans l'animation offensive pour le moment, ce qui explique ce score de 0-0. Attention, avec peut-être là l'ouverture du score, non, puis 3 pas signalés en position de hors-jeu, 28 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes.
Il a fait des 3 pas.
C'est très bon ça. Merci beaucoup. Coup, Steve.
Je joue au basket depuis 3 pas.
Jordan Olivier, donc, pour Paris FC Valenciennes. La NBA, les séries de playoffs. Chacun d'entre vous va choisir la série dont il a envie de parler. Voilà, celle qui vous donne envie de parler NBA. C'est tout de suite sur RMC et sur RMC Sport News.
RMC jusqu'à 22h. Buzzer Time. Pierre Dorian.
Buzzer Time sur RMC et RMC Sport News. C'est votre rendez-vous basket du lundi soir avec David Cosette, Stephen Brun, Frédéric Weiss qui vont s'affronter d'ici quelques minutes sur l'actu du basket français. Mais en ce moment, c'est les playoffs de la NBA.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time. Les news NBA.
Juste le temps de vous dire qu'il n'y a pas de match pour l'instant entre Boulazac et Limoges. Plus 20 pour Limoges à 4 minutes de la mi-temps.
Petite fessée dans ce derby. C'est un derby, hein.
On sait jamais. À Boulazac, Limoges, c'est un derby. Ah
oui, il y a combien de kilomètres?
Une heure et quart de route.
Une heure et quart de route.
Périgord-Limousin, c'est voisin.
Très bien, bah c'est bien, j'ai appris quelque chose. C'est de la géographie, Stéphane. Quand tu veux chambrer, fais gaffe à ce genre de truc, quand même, parce que là, pour le coup, c'était trop facile de venir au compte.
Histoire géo, je voulais dire.
Alors, les playoffs de la NBA, un sweep, Boston est déjà qualifié en battant Indiana 4-0. C'est surprenant. Milwaukee déroule face à Détroit. Il y a des séries plus serré, notamment Denver, San Antonio, Toronto, Orlando, si on veut. Oui, si Portland, OKC. Okay, à vous de choisir votre série, Fred. Tiens, c'est toi qui va démarrer. Ouais, de quelle série t'as envie de nous parler?
De Portland. OKC. Okay, si.
Portland, OKC. Okay, si. Donc Portland qui est bien parti, donc puisqu'il mène 3-1, puis surtout Russell Westbrook qui fait n'importe quoi. C'est
exactement.
Peut-être pour ça qu'ils sont mal partis.
C'est exactement ce que
j'allais
dire en fait. C'est que on a l'impression qu'on a une équipe de Portland qui joue contre une superstar qui est pas bien, qui fait n'importe quoi, qui joue du Russell Westbrook. Exactement le basket que je n'aime pas, et je suis ravi que Portland soit devant. On a eu peur, hein. Nurkic se blessant, on s'est dit bon, cette équipe de Portland, c'est un peu fini pour eux. Et ben finalement, c'est pas fini pour eux. Ils sont là, ils sont bien présents, et ils montrent que quand on est une bonne équipe, on peut jouer contre une superstar ennemie, parce que Russell Westbrook il joue comme une demi-superstar.
Alors comment se fait-il que ce mec a un talent fou soit pas canalisable dans une équipe? Il me semble que Kevin Durant quand il est parti, il a aussi fui Russell Westbrook, non?
Un petit peu, parce que Russell Westbrook, son plus gros souci à Russell Westbrook, Pierrot, tu sais c'est quoi?
Le melon?
Non, c'est qu'il pense que c'est un très grand shooter à 3 points. Et donc, il est en train de tuer son équipe.
D-Bost?
En prenant que des tirs à 3 points, et il met pas un panier. Alors que c'est plus gros, un des meilleurs joueurs de 1 contre 1. Il a des qualités pour aller finir au cercle en permanence, pour donner des calières à Steven Adams. Et il part dans un duel avec Damien Lillard, qui est la star en face des Portland Trail Blazers.
Mais là, après, c'est de l'intelligence, ou de la bêtise.
On y vient.
Le joueur le plus intelligent au niveau quotient intellectuel de basket, QI basket.
Et en fait, il nous a tous. Mais en fait, chaque année, il nous nique la gueule, Russell Westbrook.
Par contre, ça, c'est légèrement grossier, quoi. Ça arrive, mais.
Chaque année, il nous berne. Il nous berne comme Stéphane, avec ses saisons en triple-double. On pense qu'il est exceptionnel, mais en fait, c'est du trompe-l'œil. C'est du pipeau, en fait. Il met pas un panier. C'est un meneur de jeu qui a 30%. Qui a 30% de réussite. Si, les premières années. Après, ça reste des saisons exceptionnelles, mais il nous berne. Ça reste un talent fou, mais ses pourcentages sont catastrophiques pour un meneur de jeu.
Est-ce qu'il est pas parti? Alors, en termes de basket, vous allez peut-être hurler parce que la comparaison n'est peut-être pas bonne du tout, mais est-ce qu'il n'est pas parti pour faire une carrière à la Carmelo Anthony, c'est-à-dire un talent esselé partout où il passe finalement?
Il est quand même épaulé, il y a quand même Paul George dans son équipe qui est
esselé parce qu'il s'isole lui-même, quoi, tout simplement.
Oui,
il est incapable de jouer en équipe.
Il est incapable de fédérer surtout autour de lui et de jouer intelligemment. Moi, je le reproche, j'ai fait ces fins de match de gestion catastrophique, perdre des ballons. Alors que pourtant sur le début de saison on pensait que ça allait s'arranger parce qu'il avait décidé de nourrir de ballons Paul George, et Paul George était à un moment donné dans la course au titre de MVP. Et puis là il se dit Damien Lillard, je vais le manger. Bah non, tu te fais manger par Damien Lillard.
Portland, c'est réglé pour toi?
Finira en 4-1 et voilà.
Et alors dis-nous trois mots quand même de cette équipe de Portland qu'on connaît moins, parce que pour le coup il y a moins de méga stars, même si Damien Lillard est un magnifique joueur.
Lillard qui prend dessus sur Westbrook, et voilà, la série est à peu près pliée, hein, clairement.
Il y a un pivot turc, Pierrot, qui a pris le relais de Youssef Nurkić, qui est très bon.
Qui a joué à OKC plus, de 2015-2017, juste
qui n'a plus le droit de rentrer dans son pays. Je te fais un petit quiz dans le jeu. Qui n'a plus le droit de rentrer au pays.
Enes Kanter.
C'est bravo, Pierrot.
Enes Kanter.
Prend très bien le relais de Youssef Nurkić.
Très bien. Ils peuvent aller loin, hein, parce que c'est du côté de Denver San Antonio, qui est une série très accrochée. Donc, ça peut aller en finale de conférence. Très bien, Fred, c'est fait. Stephen.
Moi, c'est Philly-Brooklyn.
Philadelphie-Brooklyn. Philadelphie mène 3-1.
Les Sixers mènent 3-1. Pourquoi j'ai choisi cette série? Parce que c'est une vraie série de playoffs. Il y a du trash talk. Ça envoie des petites bagarres. Ça envoie des petits bourre-pifs, des grosses fautes, des fautes flagrantes entre Joel Embiid.
Tu te serais senti bien dans cette série, toi.
Ah, cette série, elle me fait plaisir.
Peut-être que tu n'aurais pas fini tous les matchs.
Peut-être aussi, mais comme certains. Il y a des garçons qui ne sont pas des superstars comme Jared Dudley, mais qui font parler de lui parce qu'il va à la maillotche, il va au combat. Là, on l'a vu venir défendre son pivot sur le match 4, Jared Allen qui a subi une grosse faute de Joel Embiid. Il y a 7 ou 8 joueurs qui ont fini dans les gradins. Jimmy Butler expulsé, Jared Dudley expulsé, et puis il y a Joel Embiid. Il y a Joel Embiid qui a peut-être la plus grande bouche de toute la NBA, mais qui est le joueur le plus inarrêtable de toute la NBA. Il fait
alors il a su
Janis. Peut-être un chouïa là, non?
Poste 5 pivot, très compliqué.
Oui, là, t'as dit toute la NBA, quoi.
Oui, Giannis Antetokounmpo, mais il y a lui. Lui, il est indéfendable pour moi, au même titre que Giannis Antetokounmpo. Il a marché sur tout, et en plus, il assume. Il a une grande bouche, mais il assume sur le terrain. Il a fait 33 points, 16 rebonds, 5 contres dans ce match 4. J'adore cette série. J'adore cette série. Ça va finir 4-1 pour les Sixers, mais Brooklyn, qui est une première participation en playoff depuis 6 ou 7 ans, coaché par Kenny Atkinson, qui est un ancien joueur du championnat de France il y a quelques années. Voilà, ils sortent la tête haute. Ils ont pris le premier match. On a pensé que si Philly elle était dans les cordes, mais finalement les Sixers sont une très grande équipe.
Et alors Joel Embiid, ça peut emmener Philadelphie très très haut, vous pensez les gars?
Je pense que ça peut les emmener très très haut.
Le problème c'est les blessures, c'est là, encore une fois.
Ouais, mais là,
il est censé ne pas jouer ce quatrième match.
Il a une grosse tendinite, grosse tendinite au genou pour le Camerounais qu'on aurait tant voulu voir sur le maillot de l'équipe de France avec Cyril Méjean.
Ça dépend, il y a eu débat. Hein,
la demi-finale s'annonce excitante. Toronto Raptors. Philadelphia Sixers, Marc Gasol contre Joel Embiid, Kawhi Leonard contre Jimmy Butler. Elle me fait kiffer cette demi.
Et une série comme ça, c'est justement très bien pour arriver lancé pour jouer derrière l'équipe de Toronto, a priori.
Oui, parce que voilà. Pour le coup, il y a match. Alors que Toronto, après s'être fait surprendre au premier match par Orlando, déroule.
Et on sait que gagner des séries trop facilement, parfois on peut, sur le tour suivant, se faire ramasser assez facilement.
Alors toi, David, tu as choisi, et ça m'étonne de ta part, Houston, Utah. Ouais,
parce que tu es en train de se rendre compte que Houston, ça marche en fait.
Ouais, non, mais c'est plus... Oui, bien sûr.
Parce que non, c'est le basket. Alors là, Houston, c'est le basket champagne quand même.
C'est par rapport à Rudy Gobert. Moi, voilà, vu son potentiel.
Pour nous parler de Rudy Gobert.
Ouais, moi j'ai un peu les boules de voir qu'il n'arrive pas en finale de conférence. Déjà l'année dernière,
il y a 3-0 pour Houston.
Oui, et donc personne ne revient de 3-0. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que là, ils sont revenus chez eux et que ce match, ils auraient dû le prendre tous les jours parce que donc James Harden, notre idole à tous, il a quand même commencé par rater ses 15 premiers shoots. Et quand ils sont à la maison et qu'en face James Harden il rate ses 15 premiers shoots, si tu prends pas le match, tu sais que tu n'y arriveras jamais. Et ce qui me désole, c'est de voir qu'il a pas vu un seul ballon,
parle de Rudy là.
Ouais, de Rudy Gobert, que Utah clairement plafonne.
C'est quoi le problème? C'est lui ou c'est l'équipe?
Je pense qu'il y a peut-être pas assez de enfin, c'est difficile de dire ça, pas assez de talent.
Il y a des mecs qui plafonnent. Ricky Rubio et Pringles touchent un petit peu le mur à ce niveau-là.
Bah, déjà, ce sont des mecs qui sont incapables. Alors, c'est des mecs formidables.
À cause des cheveux, Rubio, il voit pas.
Non, mais c'est des mecs, tous les deux, c'est un très bon exemple. C'est des mecs formidables, mais qui sont incapables de mettre un panier. Et donc, s'il y a pas de Van Mitchell.
Joe Ingles, il met dedans, quand même. Il peut mettre.
Ouais, mais c'est, enfin, quand tu regardes en face, en toute façon, il y a une différence énorme avec l'équipe de Houston quand tu vois qu'il y a quand même trois joueurs au bas mot qui sont capables de mettre 20 points par match. Sans problème, qui tourne à 20 points après, sur la saison.
Après Rudy, c'est compliqué cette série, compliqué pour lui parce que justement Mitchell, Ingles et Rubio mettent pas un tir extérieur, donc Houston reste enfermé dans la raquette et Rudy il a rien à se mettre sous la dent, pas de petit alley-oop, pas de caviar pour finir au dunk, donc il est un petit peu sevré.
Quelle est la responsabilité individuelle de Rudy Gobert? Est-ce que c'est un garçon avec tout le talent qu'il a et notamment les aptitudes défensives à qui il manque un petit truc pour être au niveau des tout meilleurs de la NBA?
Non, justement, je pense que si dans certaines équipes, il pourrait se régaler beaucoup plus. Justement,
à Utah.
Dans une équipe avec des mecs qui sont capables de mettre des points à l'extérieur, forcément, Rudy, lui, il existera beaucoup plus.
La comparaison, elle est vite faite. Si tu mets Rudy Gobert à la place de Clint Capela à Houston, je suis pas sûr que Houston descende de niveau et je pense que Rudy Gobert, il est tout à fait capable de faire ce que Clint Capela fait, des traversées de terrain, finir des alley-oops, prendre des rebonds offensifs. Voilà, tout simplement profiter du jeu en périphérie et des maîtres de 1 contre 1 que sont Chris Paul et James Harden.
Ah, il faudrait pas quand même que James Harden retombe dans un jeu trop individualiste. On a parlé de Russell Westbrook, c'est pas
comparable. Il a fait 3-20, mais... il a gagné, il a mis les deux tiers les plus importants du match.
Non, mais certes, mais justement, il cartonne là depuis la fin de saison et début des playoffs parce qu'ils se sont mis à jouer en équipe, parce que Chris Paul est revenu pour distribuer le jeu. Quand tu me décris le début du match 3 à Utah, David, je prends peur parce que je me dis, bon bah si lui aussi redevient entre guillemets con, ils ont aucune chance.
Petit passe d'aise quand même.
Prochain match, prochain tour, Golden State quand même. Hein.
Oui, bien sûr, mais ce qui peut passer contre Utah, on est bien d'accord que s'il se trouve complètement, on peut imaginer que ça ne passera pas contre Golden State.
Après ça montre aussi que Houston n'est pas uniquement James Harden dépendant, c'est qu'il y a des joueurs à côté et que dans un soir sans, ils sont capables de gagner un match quand même. Parce qu'il y a des Eric Gordon, parce qu'il y a du Clint Capela, parce qu'il y a du Chris Paul.
Bon, sur ce premier tour qui n'est pas fini, mais quand même, à part Denver San Antonio, ça se dessine assez nettement. Quelle équipe vous impressionne le plus? Que Golden State est toujours aussi favori?
Ouais, les Warriors, c'est fort.
Ouais, c'est malgré fort, la blessure de DeMarcus Cousins.
C'est une bonne petite équipe. qui le pousse dans le retranchement.
Mais finalement, c'est pas bien qu'il tombe contre une, enfin, pour eux, en tout cas.
Ouais, c'est
pas
bien.
Qu'ils tombent contre une équipe comme ça, parce que d'un seul coup, ils se disent, ah, on n'est pas si facile
que
ça.
Et puis,
il faut qu'on joue vraiment.
Et puis, tu t'aperçois que Kevin Durant, c'est quand même du très très haut niveau.
Et est-ce que c'est si déséquilibré que ça entre l'Est et l'Ouest? Parce que Milwaukee-Boston, ça va être quand même la folie, non?
La demi-finale Milwaukee-Boston, elle va être sensationnelle.
Ouais.
Sensationnelle.
Donc, il y a peut-être une surprise à attendre, non? Peut-être que le champion peut être à l'Est, non?
Bah, j'ai du mal à y croire. Non.
Disputé, mais Milwaukee quand même.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, globalement, on disait que c'était très déséquilibré une nouvelle fois en faveur de l'Ouest. Est-ce que finalement le champion peut pas venir de la conférence Est?
Ah, j'y crois pas.
Golden State,
j'ai du mal à y croire.
Toujours
Golden State. Kevin Durant, hier Clay Thompson fait 18 points sur le premier quart-temps.
Mais surtout que c'est bon, parce que même dans la difficulté et l'adversité, maintenant ils arrivent à se resserrer dès que c'est les playoffs.
Et tu sais quoi, ils ont perdu DeMarcus Cousins et ils ont récupéré un Australopithèque, Andrew Bogut, qui a déjà été, qui a déjà joué au Warriors.
Qui a 53 ans maintenant, Andrew Bogut.
Je peux dire qu'il est bien en canne. Hier, il fait 14 et 8 et il rend des grands services.
Alors, puisqu'on est sur la NBA ce soir grâce à Buzzer Time, vous pouvez remporter le livre LeBron James, le destin du King aux éditions Marabout. Thomas Bergeron vous raconte l'histoire controversée du basketteur le plus doué de l'histoire.
Avec Claude, hein.
Pour gagner votre bouquin LeBron James, le destin du King, vous allez sur le compte Twitter de Buzzer Time. C'est vraiment, parfois c'est nul, mais ça me fait toujours rire quand même, hein. Vous aurez remarqué. La Ligue 2, Paris FC Valenciennes, Jordan Olivier.
On s'approche de la mi-temps, 43 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes, mais les Parisiens qui accélèrent en cette fin de première période, notamment par l'intermédiaire de Romain Perrault tout à l'heure sur un corner joué à deux. Il a décoché une frappe très très lourde, difficilement repoussée par Damien Perkis, le gardien de Valenciennes, mais repoussée quand même donc cette frappe de Perrault, et les Parisiens qui continuent d'accélérer avec cette frappe de Ourega qui passe juste à côté du but à 2 minutes de la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes.
Et puis Limoges a mis plus du double de points de son adversaire en une mi-temps à Boulazac, 53-25 à la mi-temps en JP Elite.
Et c'est très, très surprenant parce que Limoges, c'est parfois compliqué à l'extérieur, et Boulazac
très bon à domicile.
Ouais, donc c'est vraiment surprenant.
Dans un instant, toute l'actu du basket français. David Cosette, Fred Veil s'associer face à Stephen Brun, The Beast. À tout de suite.
C'est Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time, tous les lundis soirs, 21h-22h sur RMC. RMC Sport News. Est-ce que ça te plaît ce petit surnom là, que j'ai improvisé comme ça, là, Stephen? The Beast.
Mais The Beast, c'est plus une référence à mon physique.
Ah non, à tes performances au 1 contre 1.
D'accord,
hein.
Oui.
Ah, parce que le physique, non, c'est plutôt flinguette, hein, c'est plutôt le...
Gringalette.
Comment tu dis?
Gringalette.
Gringalette. Comment on appelle ça? Tu sais, les apéros italiens, là.
Les apéros?
Ah, mince, je vais vous retrouver. Les Grissini, oui.
Ah, oui. Ça compte pour
le graissin devant vous.
Le graissin devant vous.
Le temps, le score, PFC Valenciennes en Ligue 2, Jordan Olivier.
C'est la mi-temps à l'instant, Pierre. 0-0 entre les deux équipes. Légère domination parisienne, même si les occasions de ces Parisiens manquent un petit peu de réalisme. Et les Valenciennes, eux, tentent de procéder par contre, mais ça manque de tranchant. On attend évidemment mieux en seconde période.
RMC. Buzzer time. Buzzer time. Le 1 contre 1.
Le 1 contre 1, ce sera 1 contre 2 ce soir. Donc Fred et David, vous faites équipe pour parler de toute l'actu du basket français sous forme de quiz. Il y a bien sûr de la JP Elite, hein, on se rapproche des playoffs. Il y a aussi de la Ligue féminine parce que évidemment on est dans les playoffs, la NBA, il y a plein de choses.
Un peu d'Euroleague, non?
Un peu d'Euroleague, enfin en tout cas tous les Français de l'étranger sont concernés.
Très bien, bravo, voilà. Joli quiz.
Et même parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a une question qui n'a rien à voir avec le basket français, ça peut arriver. Et puis des fois on fait des questions sur des références à il y a un an. Ça peut arriver aussi, tout est possible, mais essentiellement c'est l'actu, la vraie actu du basket français, c'est-à-dire Boris Diaw qui devient président des Metropolitans 92. On va voir si vous connaissez bien la carrière de Boris Diaw pour commencer. Alors la carrière,
c'est rapidité ou c'est
Non, je pense pas que ce soit rapidité, c'est plus déduction, connaissance. D'accord. De la carrière de Boris. Boris Diaw, donc qui fut son premier partenaire français en NBA? Est-ce que vous savez ça?
Partenaire français en NBA. Mike Pietrus.
Non, c'est pas Mike Pietrus.
C'était Atlanta?
Eh ben, c'était pas Atlanta, figure-toi.
C'était Alexis
Agença au Charlotte Bobcats. Quand il prend ce ton-là, c'est qu'il sait qu'il a la bonne réponse.
The Beast.
C'est en 2008-2009, drafté premier tour Alexis Agença, en 20e position. Alors, pour tout vous dire, il a eu un partenaire français à Atlanta, mais qu'en fait, je pense un Américain avec la nationalité française. Moi, j'avais jamais entendu parler. Et surtout, je pense qu'il a pas joué un match de la saison.
C'est qui?
Je sais même pas. J'ai pas noté son nom.
Ça aurait été sympa d'avoir l'info, quand même.
C'est pas faux.
Français, ça aurait été sympa, non?
Merci pour le teaser.
C'est pas faux. Mais bon, vu qu'il a pas joué de la saison, j'ai considéré que la bonne réponse était d'accord. Alexis Aginsa. Le premier point va à Stephen Brun. Tiens, il y a eu un match incroyable entre l'ASVEL et Nanterre. On va en parler quand même parce qu'on s'attendait à un match serré et ça a été tout le contraire. Qui est la meilleure évaluation de ce match?
Julian Gumbel.
Julian Gumbel. Exactement.
J'ai surpris la rapidité là, c'est
et,
ça
et, ont... et pourtant, ceux qui l'ont commenté, c'est Fred et moi.
Et on le savait.
Et on le savait, puisque c'est nous qui l'avons élu MVP en fonction de son évaluation.
Exactement.
Et c'est juste que nous, on a toujours besoin d'un moment de... Voilà.
Alors pourquoi j'ai voulu parler de Julian Gumbel?
J'ai fait un pari sur Gumbel.
Parce que... C'est excellent. Parce qu'il n'est pas titulaire. Il est MVP, meilleure évaluation en sortant du banc. C'est quand même pas commun.
Ouais, mais non. Enfin, dans ces équipes-là, tu regarderais, je sais pas. Même.
Ça fait un moment qu'il joue plus dans le 5, hein, que c'est Treadwell qui démarre tout le match.
Mais oui, depuis que Treadwell est dans le 5, d'ailleurs, que Nanterre gagne.
Et t'as plein de grosses équipes comme ça où il se constitue un banc formidable avec des joueurs qui sont potentiellement titulaires.
Avec des stats surréalistes. 20 minutes, 19 points à 7 sur 8 au shoot. Ouais,
il était bien chaud, là. Il était bien chaud. Et défensivement, il était très intéressant aussi.
Comment on explique ce non-match finalement, enfin cet écart incroyable au score?
Ils ont explosé. Après c'est des options, enfin Stephen ou Fred en parlerait.
14 sur 23 mais... points, c'est compliqué de gagner, hein,
face... ouais, enfin ils avaient des shoots
ouais, l'option était ils ont laissé beaucoup plus de shoots qu'au match 1.
Oui.
Où ils avaient tenu le match.
Après, 14
quasiment.
Sur 20, c'est quand même,
14 sur 20, c'est quand même
incroyable.
Et Okor Patterson qui met un petit 3 points sur une jambe au buzzer, c'était chaud aussi.
Quelle nationalité Okor Patterson?
Bon, bah ça doit être un Turc, non?
Non mais Islandais.
Ouais. Très bien.
Patterson, pas d'image.
C'est l'ASVEL qui s'est complètement trompé en fait, ou c'est une question d'adresse, c'est quoi? Et
l'adresse, c'est la défense. Si Nanterre a
défense, points. Mantas Kanitis qui était le meilleur joueur de l'ASVEL depuis 15 jours, qui est pas là, il faut le dire aussi, parce que Théo Maledon est dans le trou depuis un mois et demi, deux mois. Des petits joueurs grippés apparemment, mais ça doit pas être une excuse. Ils sont fait gifler.
Et puis faut pas oublier que Nanterre, c'est la deuxième meilleure équipe de la phase retour derrière Monaco. Donc oui, c'est une surprise d'aller gagner chez le leader, mais Nanterre, on n'en parle pas autant que Monaco, ce qu'ils font la sensation du moment, mais ils font un super parcours sur la phase retour.
Alors tiens, Jimmy Brown, notre producteur américain,
le nom du joueur.
Enfin, franco-américain, oui, alors c'est Michael Stewart, ça vous dit quelque chose?
Michael Stewart.
Ouais, ok, Mike, j'ai compris, j'ai bien fait de...
Alors lui, il faut me sortir d'où il a un passeport français, Michael Stewart, je n'en ai jamais entendu parler.
Parce qu'il est né en France, en fait.
Il est né en France. Stewart, quoi.
Non, mais c'est mauvais, quoi. Bon, une petite série de déclarations, vous devez me retrouver l'auteur de cette déclaration. Il y a 2-0 pour Steve. Franchement, tu te fais des montagnes pour rien, parce que tu suis l'actualité du basket, tu sais. Hein.
Bien sûr.
Alors, qui a déclaré ces jours-ci, ma voix, c'est lié à ma carrière d'entraîneur et à la cigarette?
Jacques Monclar,
ouais. En bord de terrain, on finit par s'user les cordes vocales et cela change votre timbre. Ouais. Incroyable cette déclaration.
Bah c'est, je sais pas, David peut-être mieux placé pour
Jacques Monclar dans une interview à Télé Loisirs à propos de son boulot de consultant télé.
Ah, il a quand même enchaîné les gitans de maïs.
La clope, on comprend que ça te change la voix.
De crier. Et puis lui, c'était pas un coach calme, hein, Jacques. Ouais, il envoyait du lourd.
Vocal,
oui.
Moi, je l'ai eu comme coach. J'ai eu cette chance. Oui, c'était un coach vocal.
Très bien. Allez, troisième point pour Stephen.
Pourquoi tu crois que Céline Dion, elle crie jamais?
Qui a déclaré, et là je vous demande le nom et le prénom. Hein.
D'accord.
Nom et le prénom, c'est d'accord. Très important. Il a quand même un petit nom dans le basket universitaire. Il va se présenter et en fonction des retours des entraînements et des scoutings, il prendra sa décision. Ou il restera sur la draft. Ou il se retirera et fera sa dernière année avec l'université.
Jérémy Medjana?
Non.
Laurent Tilly, le père de Kylian Tilly.
Laurent Tilly, le père de Kylian Tilly. Les gars, si je vous demande le nom et le prénom, c'est une raison.
Ah ouais, les Tilly, il y en a beaucoup dans les hôtels.
Laurent Tilly qui a déclaré ça dans le Super Moscato Show la semaine dernière.
C'est très étrange parce que Kylian Tilly, sa cote était très bonne il y a 3 ans maintenant. Il vient de faire 2 saisons très moyennes. Pourquoi tu rigoles?
Non, parce que je me dis on va peut-être demander au gars de l'after de venir pour renforcer l'équipe de Fred et David.
Il a fait 2 saisons tronquées par les blessures. Là, je pense
qu'il il a très peu joué.
Très peu joué. Là, je pense qu'il tâte le terrain. Il va peut-être faire quelques workouts. Il tâte le terrain, voir s'il est annoncé premier tour ou sinon il va refaire une année de plus à Gonzaga pour essayer de faire une année pleine.
Alors, il y a 10 Français Français qui sont inscrits à la draft, je vous dis franchement, il y en a plein que je n'ai jamais entendu parler.
Tu connais Dumbuya.
En gros, et Kylian Tilly, ouais. Mais il y a des mecs dont j'ai jamais entendu le nom. Et...
Si, Mokoka. Entendu parler.
Ouais, je joue à Gravely. Son gros souci, c'est qu'il est un peu light, Mokoka.
Mais pourquoi je savais que j'allais faire cette blague? T'aurais pu dire il est zéro, quoi. Ça aurait été un peu méchant, quoi. Bon, ça fait 4-0. Faut se réveiller, messieurs, hein. Petite déclaration très facile. Je n'ai pas aimé le début de match. Il faut montrer plus de respect. Mais la deuxième partie de la rencontre était bien meilleure.
Je n'ai pas aimé le début de match. Il faut montrer plus de respect.
Perronnet?
Non. Valérie Desmaury?
Non.
C'est un coach du basket féminin?
C'est un coach du basket masculin.
Je n'ai pas aimé le début de match, mais répète s'il te plaît.
Je n'ai pas aimé le début de match. Ouais. Il faut montrer plus de respect.
Je me souviens même pas.
Mais la deuxième partie de la rencontre était bien meilleure.
C'est donc une équipe qui jouait une équipe de pipe en bois.
Sacha Obradovic, c'est parti. Oui. C'est la remontada.
Pas certain.
11e victoire consécutive de Monaco, qui a quand même battu Chalon de 15 points. Donc que le coach soit pas content du début de match.
C'était quasiment égalité à la mi-temps. Ouais, je crois. C'est ça.
Mais Monaco, attention. Alors là, pour le coup, il y a quelques semaines, on voyait l'ASVEL gros comme une maison. Mais quand tu vois les séries de Monaco et de Nanterre, il y a une vraie
comme match mercredi.
Incertitude.
ASVEL Monaco.
Excellent.
C'est bon ça. Hein.
Sur quelle chaîne?
RMC Sport.
Excellent. Non mais lequel?
Ah, je sais pas.
RM Sport 2.
Pas sûr. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. 5, 6, sur Kimotion.
Bon, en tout cas, pour le coup, Monaco, 11e victoire consécutive. Qu'est-ce qui se passe à Monaco? C'est une anomalie ou ils peuvent être champions?
Non, ils peuvent clairement être champions.
Ouais.
Ils peuvent clairement être champions, surtout que...
L'effectif a été retouché juste comme il faut.
Surtout que j'ai ouï dire qu'ils aimeraient bien se renforcer encore. Donc.
Ah oui?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais. Ils ont approché un international français qui a quitté un club de Euroleague.
Ça fait 4-1 pour Stephen.
Qui a refusé, je crois.
Oui. Face à Fred et David. Alors, question basket féminin.
Oui.
Je vais vous demander le nom des deux basketteuses qui ont intégré la commission athlète des Jeux Olympiques
de Paris
2024.
Jandra Tachuang, Marine Joannès.
Bah, les deux, il les a dit avant toi. Écoute, qu'est-ce que je te dise?
Très bien.
Donc le point pour Stephen Brun. Parfait. Marine Joannès et Diandra Tchatchwang, ce qui va nous permettre de parler des playoffs de la Ligue féminine. Il y a eu pas mal de surprises. L'ASVEL est le seul qualifié après deux matchs pour les demi-finales. Bourges battu à Landerneau, Montpellier battu à Basketland et Charleville battu par Roche-Vendée. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise dans les matchs 3 qui ont lieu demain?
Peut-être Basketland peut aller faire la surprise sur le parquet de Montpellier. Sinon, à domicile, Bourges et Charleville-Mézières, c'est censé être au-dessus. Attention à Basketland avec Céline Dumère.
Il y a eu 2-3 absences importantes.
Il y a Élodie Godin qui est out. Sarah Michel, je crois, qui n'a pas joué. Ils ont pas mal de joueuses absentes, mais à Bourges, c'est plutôt solide. Attention à Basketland avec Céline Dumère à Montpellier.
5-1, il reste 2 minutes 30, vous pouvez le faire les gars.
Ouais, bien sûr.
On est parti là.
Qui a déclaré, on devrait jouer comme ça tous les soirs. C'est notre jeu, ça devrait être tout le temps comme ça. Non, c'est bien tenté.
Je pense qu'on n'est plus dans la Deep Elite.
Alors, Stephen est sur la bonne voie.
On n'est plus dans la Deep Elite. Evan Fournier.
On devrait jouer comme ça tous les soirs, c'est notre jeu, ça devrait être tout le temps comme ça. Non. On en a parlé dans cette émission. On a déjà parlé.
Rudy Gobert.
Je comptais sur toi, David.
Ce que tu veux que je te dise.
Mais en plus, t'as décrit exactement ce dont il parle tout à l'heure. C'est-à-dire un début de rencontre à l'avantage de Utah, une intensité qu'ils n'avaient pas réussi à mettre à Houston, qu'ils ont réussi à mettre à Utah, et il était bien désolé, Rudy, en conférence de presse d'après-match, parce qu'il expliquait Utah Jazz. Et avant, dans cette série, on a fait n'importe quoi. C'est ça qu'il voulait dire en fait.
D'accord.
Par cette déclaration.
D'accord.
Et donc, ça fait un sixième point. 6-1. Tiens, quels joueurs français sont certains de terminer champion d'Europe en basket?
Hein, joueur français.
Antoine Dion et Louis Labéry?
Bah, tout simplement, puisqu'ils ont gagné l'Eurocup avec Valence. Ça fait 7-1.
Franchement, je me régale. Je prends un plaisir non dissimulé à participer chaque lundi à ce.
Mais t'as
ce
été
quiz.
Bon parfois, quoi.
Oui.
T'es éteint aujourd'hui,
oui,
mon pauvre David.
Non, c'est juste qu'il donne dans la seconde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ah, oui. Alors, une charade peut-être.
Allez.
Une charade, on sait.
Vas-y, une charade.
Il est euphorique. Il est aussi insupportable quand il gagne que quand il perd, en fait.
Bon, on préfère quand il gagne, finalement.
Moi, je préfère
c'est vrai que quand, oui, parce que quand il perd, ça met une mauvaise ambiance.
Maintenant, j'ai évolué, j'ai grandi.
Allez,
vite. Envoie la charade.
Vas-y.
Il se chauffe. Bon, mon premier se dit quand on a mal.
Aïe, Valériane Ayayi.
Le prénom de mon second est apparu dans une affaire de mœurs impliquant des footballeurs en 2009.
Isaiah Cordinier,
excellente réponse de David Cosette. Montou est MVP de la 28e journée de Jeep Elite. Isaiah Cordinier, 19 points.
Il n'avait pas un truc sur Cordinier, mon 3 est un métier.
Alors, mon troisième est une chanteuse, actrice.
Cordonnier.
Alors, j'ai failli faire cordonnier et je me suis dit c'est un peu trop abusé. Donc, mon troisième, c'était une chanteuse, actrice, meneuse de revue
Annie
belge
Cordy.
De 90 ans, voilà.
Et nié.
Et mon quatrième est un synonyme de bêta.
Nier.
Où j'ai failli dire de Steve, mais ça aurait été méchant. Donc, c'est Isaiah Cordinier, qui est sur une grosse fin de saison, quand même, hein.
Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il gagne un match. Parce qu'il était très bon dans les défaites. Là, il est bon dans une victoire.
72-69 contre Cholet.
Écoute, c'est un joueur qui a une belle galère. Il a des gros problèmes de genoux. Il a fait quasiment deux années blanches. Et puis, c'est un garçon qui a été drafté, rappelons-le, qui devrait intéresser pas mal de clubs de GPI. J'espère l'année prochaine de haut tableau. Si lui, il a pas envie de,
bien sûr, de montrer sur la fin de saison, ce serait logique, hein. Clairement, c'est
bon JFL. S'il est en bonne santé, très bon JFL.
Qui est premier à l'évaluation après deux rencontres de playoffs d'Euroleague?
Vincent Poirier.
C'était pour toi, tu l'as noté, t'avais noté Isaiah Cordinier, et en tout, t'avais noté Vincent Poirier, Fred.
J'avais Isaiah Cordinier, mais pas Vincent Poirier.
Je t'ai regardé en plus, hein. J'ai essayé de te concerner, mais ça n'a pas fonctionné. Vincent Poirier, exceptionnel quand même.
Lui, c'est The Beast.
C'est lui, The Beast. The Beast. Ouais.
Exploit.
Fred, pourquoi t'as noté son nom?
Non,
il y a bien une raison.
Tout simplement parce que c'est le joueur qui a pris le plus de rebonds dans l'histoire de l'Euroleague sur une seule saison, donc 262.
Grosse progression cette année quand même.
Il progresse tout le temps, tous les ans. Chaque année, il a une progression incroyable, une progression, on ne sait pas où il va s'arrêter. On ne sait vraiment pas où il va s'arrêter. Logiquement, il devrait être en NBA la saison prochaine.
À Houston, alors là, pour le coup, vu la trajectoire qu'il vient de nous faire Steve, c'est direction sur orbite. Hein. Et enfin, quel est l'autre joueur français du top 10?
Tom Hertel?
Non.
Ah non, c'est vraiment.
C'est pour David, qui a été le plus rapide.
Ouais.
Une belle défaite, 8-3.
C'est bien. Oui,
monsieur, correct. Non, vous avez limité la casse, messieurs. Bravo, Stephen. Tu restes le champion quasi incontesté. C'est reparti entre Boulazac et Limoges. 56-33 pour Limoges, dont on va parler dans le locker room. Et puis, est-ce qu'on est reparti en deuxième mi-temps? Pas encore. Entre le PFC et Valenciennes 0-0. On revient tout de suite avec les coulisses du CSP Limoges, un club où il se passe toujours quelque chose. À tout de suite.
C'est 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
21h-22h tous les lundis soirs, votre rendez-vous du basket sur RMC et RMC Sport News. La Dream Team est là, David Cosette, Stephen Brun,
oui.
Frédéric Weiss. Il y a deux matchs en direct, la Jeep Elite, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, la Ligue 2, c'est reparti entre le Paris FC et Valenciennes, Jordan Olivier.
À l'instant, Pierre, depuis 30 secondes de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Pas de changement à la mi-temps. Le joueur préféré de Stephen Brun est toujours sur le terrain. J'attends plus trois fois, effectivement, qui s'est un peu éteint au fil des minutes de cette première période. Il devra faire mieux en seconde pour porter le Paris FC et pour que les Parisiens puissent enfin accrocher un succès. Eux qui ont connu un mois d'avril difficile avec trois matchs, aucune victoire, deux défaites et un match nul. 46 minutes de jeu, 0-0.
Et en Jeep Elite, donc Limoges déroule toujours sur le parquet de Boulazac, 61-33. Limoges, on en parle tout de suite.
RMC Buzzer Time. Buzzer
Time. On s'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Alors Locker Room, des infos, des coulisses avec Cyril Méjean la plupart du temps, parce que parfois d'autres aussi ont leurs infos coulisses. Et bon, Cyril, messieurs. En ce moment, alors là la coulisse de Limoges est très très agitée, il va falloir que tu nous expliques tout ça. Alors je pense que Fred, David et Stephen sont bien au fait de ce qui se passe au CSP Limoges, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les amoureux du basket et du sport en général. Tu vas m'expliquer à moi qui n'y connaît rien, ce qui se passe à Limoges. Parce que moi, ce que je vois, c'est Céline Forté qui est en train de devenir la patronne du club. Alors, elle est en train de devenir la patronne du club sans en être la présidente. Il me semble que c'est à la suite et à l'issue d'une longue lutte de pouvoir.
Qui n'est pas finie.
et qu'en plus cette lutte de pouvoir n'est pas finie. Alors, explique-moi pourquoi tout cela est si important et quels sont les enjeux en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ce club ?
Pour faire simple, on a donc un club professionnel qui est sous forme d'une SASP, donc par rapport à une société anonyme, avec un président qui est actuellement Yuri Veras, qui est donc la SASP, le club professionnel. Dans ce club professionnel, il y a des actionnaires et parmi l'actionnariat majoritaire, il y a une association qui s'appelle l'association Limoges Élite, CSP Élite, qui détient 85% des parts en fait du club professionnel. Cette association avait un président qui était Frédéric Forté et c'était un poste qui était vacant depuis sa mort, depuis son décès.
Frédéric Forté qui était le vrai patron du club, hein, on est d'accord.
Oui, hein. qui faisait tout au club. Hein.
On est d'accord. Voilà. Et qui était depuis le décès de Frédéric Forté, il n'avait pas été remplacé, mais le club était quand même tenu.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a un président qui s'appelle donc Yuri Verrieras, il y a un directeur sportif Olivier Bourguin, il y a des membres du staff et des membres du bureau directeur à la fois du club professionnel et de l'association qui est donc majoritaire.
Mais alors pourquoi ces luttes de pouvoir ? Qu'est-ce qui se joue exactement ?
Céline Forté depuis la fin de l'année dernière a voulu absolument récupérer le club parce qu'elle n'était pas d'accord avec le fonctionnement de l'équipe actuelle et elle a fait donc divers recours au tribunal de grande instance de Limoges pour pouvoir faire invalider la présence du président actuel du club professionnel dans cette association pour se retrouver en majorité, c'est-à-dire avec trois
personnes. Elle a un rôle déjà au sein du club ?
Non, alors elle a un rôle en tant qu'actionnaire.
D'accord. Donc c'est très chaud quand même. C'est-à-dire au sein du club, c'est la guerre entre dirigeants, clairement quoi.
Alors après, elle a pas vraiment de poste de dirigeant.
Non, elle était actionnaire,
mais pas dirigeant en fait. Et là, justement, avec ce qui s'est passé cette semaine, le tribunal de grande instance de Limoges a invalidé la présence de Yuri Verrieras dans le conseil d'administration de l'association. Et cette association a été récupérée par Céline Forté et par ses proches et a été nommée comme président Alexandre Gabriel, qui est le frère de Céline Forté. Qui donc prend la présidence de cette association.
Et donc qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il va y avoir un grand ménage ?
Alors, ça veut dire que maintenant, désormais, Céline Forté et ses proches ont pratiquement 99% de l'actionnariat du club.
On peut dire qu'elle a pris le pouvoir.
Elle a pris le pouvoir. Il y a encore une étape, c'est-à-dire qu'il va y avoir une assemblée générale du club professionnel qui va être obligatoirement réunie avec donc le nouveau président de l'actionnaire minoritaire, cette association. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un nouveau vote et ils vont prendre la place de Yuri Verrieras.
Et donc, la moitié de l'équipe dirigeante va dégager ? C'est ça que ça veut dire ? David.
C'est House of Cards, l'IPSP
Limoges. Oui, c'est ça, c'est House of Cards. Ah, oui, bien sûr, probablement, évidemment.
Olivier Bourguin, par exemple, va rester.
Ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler.
Alors, Olivier Bourguin.
Mais quand, à quelle échéance, fin de saison?
Non, Olivier Bourguin risque de partir, peut-être même de lui-même, très rapidement, une fois que Céline Forté aura pris totalement
comment
le pouvoir.
Ça peut fonctionner un
et par
comme
contre,
ça.
Perronnet finira la saison.
Et d'ailleurs, il faut rendre hommage aux joueurs que nous, on a parfois critiqués en disant, ils pensent plus à attaquer qu'à défendre, ils sont un peu inconséquents, les joueurs de Limoges, quand on les voyait, du potentiel. Là, en ce moment, de voir Limoges qui gagne des matchs à nouveau
dans
avec le cirque qu'il y a autour, il faut vraiment rendre hommage à l'effectif pro et même au coach, finalement, François Perronnet, de réussir à garder les joueurs focus.
François Perronnet, par exemple, est-ce qu'il est, entre guillemets, dans un clan? Est-ce qu'il est rattaché à un des deux clans?
Il a été signé par Olivier Bourguin.
Oui. Donc il va faire partie, il va être dans la charrette.
Il était du côté de ceux qui sont.
Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il saute avant la fin de saison?
Non, il finira la saison. La personne qui devrait partir avant, c'est Olivier Bourguin.
Mais ce qui serait extraordinaire, par exemple, c'est que ça a peut-être peu de chances d'arriver, mais imaginez que Limoges soit champion.
Je connais pas exactement ce que pense chacun des acteurs, mais je ne m'avancerai pas pour dire que le sort de François Perronnet est scellé. Parce que autant Olivier Bourguin, on sait bien qu'il y a des clans et que lui, clairement, est dans
ne
travaillera jamais avec Céline Forté. Autant François Perronnet, même s'il a été nommé par Olivier Bourguin, rien ne dit que Céline Forté ou que le nouveau président
au TGI, il était du côté de la direction actuelle.
Même sur le banc,
il était sur le banc.
Et on sait d'où vient cette ah, j'allais dire cette haine, je sais pas si c'est de la haine, mais cette guerre, c'est uniquement une question de politique sportive ou il y a des histoires personnelles? C'est quoi?
Il y a des histoires personnelles.
Moi, ça me paraît complètement dingue, une histoire comme ça, parce que, je vous avoue que je connais pas le CSP Limoges comme vous, qui est plongé là-dedans, au jour le jour, au quotidien. Moi, je trouve ça complètement dingue que, au moment le plus important de la saison, il se passe ce qui est en train de se passer, quoi.
C'est toujours comme ça, Limoges. C'est dit, Céline Forté est en guerre contre Olivier Bourguin et elle veut récupérer le club pour faire sauter les gens tirés aux côtés de Fred Forté.
Après, si on ouvre un petit peu sur l'avenir et sur la prochaine saison, il va y avoir un vrai souci, c'est que pour l'instant Olivier Bourguin avait commencé à faire son travail de directeur sportif, c'est-à-dire prendre des contacts, des rendez-vous avec des agents et travailler sur le recrutement de la saison prochaine avec François Perronnet comme entraîneur. Tout ça va sûrement sauter fin mai une fois que la nouvelle direction sera en place et donc le club va avoir beaucoup de retard sur la prochaine saison.
La nouvelle direction travaille déjà sur ce dossier. Alors, ce sera peut-être la même chose, ce sera peut-être deux choses différentes, mais en tous les cas, les gens travaillent déjà.
Non, mais alors, ça veut dire qu'il y a deux projets.
Une direction qui veut signer des joueurs qui font des offres, et l'autre direction qui appelle pour des autres joueurs.
En gros, c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Peut-être même qu'ils sont sur les mêmes joueurs.
Qui est la personne qui parle avec les agents, alors?
Ben, je pense que Céline Forté a déjà nommé des personnes à l'intérieur de son groupe pour s'occuper de ça.
Oui, mais Fred, ils sont en retard,
bien sûr. Et ce qui est inquiétant, là, c'est de savoir quand tu auras une passation de pouvoir. Si passation de pouvoir il y a, il faut que ce soit le plus rapide possible.
Bien sûr.
À toi, tu dis qu'il faut que ce soit le plus rapide possible.
Pour que ça soit
Mais qui t'a flingué la fin de saison, quoi?
Pour que ça soit le moins difficile pour justement préparer la saison prochaine, il faut que ce soit le plus rapide
après,
possible.
Après, le sport, c'est éphémère.
Regarde, Pierrot, je vais t'expliquer. Imagine Olivier Bourguin, il y a des joueurs, je pense à Dwight Hardy ou Jordan Taylor, qu'Olivier Bourguin aimerait bien garder la saison prochaine. Donc peut-être qu'il a déjà avancé avec eux, et finalement Olivier Bourguin, il a plus le pouvoir. Arrive fin mai, ces joueurs-là, ils ont peut-être d'autres propositions ailleurs. Ils se disent, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis
pas contrat? J'ai bien compris.
La nouvelle direction.
Tu m'as donné un bon exemple, mais comme si j'étais complètement teubé, quoi.
Okay,
en fait.
D'accord, excuse-moi.
Bien, en tout cas, comme le dit David, il faut rendre hommage à l'équipe sportive qui, pour l'instant, est qualifiée pour les playoffs puisqu'ils sont septième. Dans la situation actuelle, ils sont dans les 8 premiers et ils mènent donc sur le parquet de Boulazac 66-39 alors qu'on arrive à la fin du troisième quart.
Est-ce qu'on va laisser la place à Martin Fourcade?
On va laisser la place à Gilbert Bribois et l'After.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
De toute façon, c'est Strasbourg qui sera champion.
Pourquoi pas?
Tu me l'as dit, il y a deux mois.
Moi je pense que ce sont mes favoris, Gilbert.
Merci.
Par contre, il faut que tu dises que Tony Parker a quand même plus d'impact dans le sport français que Martin Fourcade.
Oui, c'était leur gagnant cet après-midi qui a démarré dans la rédac, qui s'est fini sur Twitter. On attend l'arbitrage de Jacques Monclar.
Bah, ça y est, c'est prononcé.
Jacques est mort.
Tu parles de Tipeee à Jacques Monclar. Comment tu veux qu'il réagisse, le mec?
Le programme de l'After.
Alors, on ne parlera pas de Tony Parker, mais de Kylian Mbappé.
Ah, bon, c'est pareil. Hein. Ah,
c'est comparable.
C'est le même niveau.
C'est au-dessus?
C'est comparable, 19 ans, il a déjà le monde.
Est-ce que dans son panthéon personnel, c'est au-dessus?
Il faut qu'il fasse sa carrière, Kylian Mbappé.
Encore.
Mais dans la trajectoire, c'est comparable, hein. Parce que le PSG, c'est un peu les Spurs.
Ça te laisse sans voix, ça, Gilbert, la réponse de Pierre.
C'est surtout qu'il n'ose pas, se lâcher, en fait, tu parles.
Pour moi, Tony, il est au-dessus des étoiles, hein. Il est dans le top 3 des plus grands sportifs français. J'ai pas peur de le dire. Hein.
Dans le top 3?
Oui. Avec Zidane. Et je laisse une place pour le troisième, selon votre sensibilité.
Au choix.
Ah ouais, genre, je sais pas, Kili, Bernardino.
Voilà.
Vous en choisissez.
Alain Prost.
Voilà. Marcel Sardan.
Marie-Jo Pérec.
Marie-Jo Pérec, allez.
Voilà. Tony Estanguet, si tu veux, tiens, c'est cadeau.
Teddy Riner.
Ça t'en pense pas.
Allez, c'est l'After.
Avec le foot européen, comme tous les lundis, bien sûr, Daniel Riolo et Pierre Ducrot dans quelques instants. On va parler notamment de Lyon et de Marseille.